Et merci à vous toutes de m'avoir conviée à, voilà, à reprendre ces travaux avec vous. C'est effectivement la troisième séance entre nous, si je peux dire, dans le cadre de cette dynamique. On va clore, mais on ne va pas clôturer. Hein. On aura, comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un des grands poètes belges, Philippe Robert Jones, on aura le bonheur de ne pas conclure. Parce que, en fait, parallèlement à ceci, on a aussi chaque année présenté au Collège Belgique, donc qui est l'équivalent du Collège de France, mais en Belgique, sous le patronage de l'Académie, une séance. Et on a déjà, la fois prochaine, ce sera avec Véronique, après, ce sera avec Andrea. Enfin, voilà, on continue, et cette dynamique, qui n'a pas eu son financement prévu, a d'autres financements possibles. Voilà. Et donc, moi, pour cette communication-ci, cette année, je propose de contribuer à l'étude qui a été entreprise depuis 2 ans par Véronique Knocard sur le mythe de Diane, en y apportant le corpus d'un écrivain contemporain sur lequel je travaille depuis quelques années, à savoir Yannick Enel, qui a remporté avec ceci l'an dernier le prix Médicis. C'est son 8e roman, Tiens ferme ta couronne, donc paru chez Gallimard. Et au même moment, il a réalisé un film intitulé La Reine de Némi, avec le Studio National des Arts Contemporains du Frénois. Donc je ne vous montrerai pas le film, parce qu'en 25 minutes, bon, mais je vais vous en parler. Donc Diane et Actéon sont présents dans ces deux œuvres comme des motifs intertextuels majeurs selon des modalités qu'il est précisément intéressant d'observer de plus près en regard de la question qui nous occupe ici, à savoir ce que la remédiatisation fait au mythe. Et je vais donc d'abord expliciter l'usage du mythe dans le roman, puis ce qui se modifie dans le film qui se centre sur la dernière séquence romanesque. Alors que Yannick Enel se soit intéressé au mythe de Diane et Actéon n'a rien d'étrange. C'est un grand lettré, il élabore une œuvre délibérément citationniste dans laquelle la mythologie a toujours sa part. Sous l'égide des illuminations de Rimbaud, il met en scène d'œuvre en œuvre des quêtes, des errances, traversées de moments d'épiphanie, souvent liées à l'expérience érotique. C'est dire que le récit de la déesse de la chasse surprise au bain par Actéon, dont Véronique Knocard a souligné qu'il, je la cite, « interroge le regard quand il rencontre le point aveugle de la clarté divine », l'irreprésentable en pleine lumière, c'est dire donc que ce thème a tout pour l'intéresser. La question de l'extase et de l'au-delà du visible sont en effet au cœur du projet littéraire de Yannick Enel, qui postule que l'éblouissement est interrogeable poétiquement, en d'autres termes qu'il peut s'appréhender par le langage. Plus généralement, son imaginaire est marqué par la dyade augustinienne « Mysterium fascinans, mysterium tremendum », soit les deux aspects antagoniques du sacré qui interviennent dans son œuvre en tant qu'expérience euphorique et érotique, de la merveille d'une part, et en tant qu'épreuve dysphorique, de l'horreur du crime et des forces de mort d'autre part. Alors cette dichotomie marque aussi le mythe de Diane, dans lequel le voyeur, transformé en cerf et mis à mort par ses chiens, Yannick Enel exploite cette double charge d'érotisme et de violence dans « Tiens ferme ta couronne ». Et lorsque pour la première fois il prend la caméra, c'est encore Diane qu'il décide de mettre au cœur de son propos. Donc on verra ici pourquoi et surtout comment. Le roman d'abord. Le roman donc date de 2017. C'est un récit foisonnant de type picaresque. Il est structuré en 3 parties intitulées « Des films, des histoires, des noms ». Alors le Picaro, qui est prénommé Jean, comme tous les héros de Enel, est l'auteur d'un scénario improbable consacré au génie d'Herman Melville, donc l'auteur de Moby Dick. Il raconte donc à la première personne ses tribulations dans les milieux du cinéma et des musées, entre Paris, New York, Isenheim, avant de finir au bord du lac de Némi, en Italie. Dans la première partie, on découvre le héros dans le désœuvrement, cloîtré dans son appartement à regarder des films en s'abreuvant d'alcool. Il nous fait part de ses considérations personnelles sur ce qu'est un grand écrivain et reconnaît que son scénario sur Melville, alors vous avez toutes les citations sur l'exemplier, est un film impossible, justement parce que l'impossible était le sujet du scénario. En effet, il explique qu'un véritable écrivain est, je cite, « quelqu'un qui voue sa vie à l'impossible, quelqu'un qui fait une expérience fondamentale avec la parole, qui trouve dans la parole un passage pour l'impossible, quelqu'un à qui il arrive quelque chose qui n'arrive que sur le plan de l'impossible. » Et plus précisément, il explicite son idéal en termes de préservation de la beauté jusqu'au cœur du désastre. Un écrivain, dit-il, est quelqu'un qui, même s'il existe à peine aux yeux du monde, sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime. Bon, conformément à la tradition picaresque, ce anti-héros est un loser, moqué par son entourage, embarqué dans des aventures loufoques, par exemple un aller-retour New York-Paris en une seule journée pour rencontrer le cinéaste Michael Cimino, à qui il rêve de confier son scénario, et il laisse aussi vagabonder librement ses idées, tout aussi saugrenues au fil des pages. Et c'est ainsi que le thème de la chasse fait son entrée dans le récit. Parce que de la quête tragique de la baleine blanche, il passe au daim blanc traqué mais préservé dans le film de Deer Hunter de Cimino, puis au cerf empaillé qui est dans la scène centrale d'Apocalypse Now, pour conclure que la chasse est spirituelle, à savoir qu'elle est mue par le désir d'un mystère. Et le nom de Diane alors apparaît furtivement, je cite, « Même s'il traque un pauvre lièvre avec la cruauté d'un plouc éméché, le chasseur, sans même qu'il le sache, poursuit une nudité. Le gibier n'est qu'un alibi à son désir, à travers chaque sanglier, chaque biche, à travers la poursuite qu'il accorde à la transe. Il ne cherche qu'une chose, tomber sur Diane, dévoiler le corps interdit de la déesse. » Dans cette partie initiale du récit, le mythe de Diane se présente donc comme la cristallisation imaginaire d'une quête d'absolu indissociable d'un schéma de type sacrificiel. Cette interprétation souligne l'ambivalence de la fable mythique. Actéon est tout homme désirant, dont le chasseur est une figure possible. Mais Diane n'est pas seulement la pureté sacrifiée à son désir, elle est aussi l'instigatrice du sacrifice subséquent d'Actéon. On sait que dans la légende, elle met le voyeur au défi. « Va donc raconter maintenant, si tu en es capable, que tu m'as vu nu. » Elle le dit au moment où elle le transforme en cerf, c'est-à-dire au moment où elle le prive de parole, ce qui le condamne d'ailleurs à être dévoré par ses chiens. Le héros de Enel le rappelle. « C'est Diane, dit-il, qui manigance un rendez-vous avec votre mort. » Toutefois, cette trame est ici comprise comme initiatique, dès lors qu'elle fait passer de la vie à la mort et inversement, dit-il. La déesse est effroyable parce qu'elle promet à la fois l'illumination et la mort, et l'illumination par la traversée de la mort. Dans cette perspective, la première partie se clôture sur une scène onirique où le héros, qui se sent menacé, imagine qu'il subit une épreuve de vérité. Tandis que le couteau s'approche de ma gorge, je m'approche du voile. Jusqu'au dernier instant, jusqu'à l'avant-dernier, je fixe la lueur qui vient sur la lame. Faut-il que le couteau entre dans la gorge pour que le voile se déchire ? Donc l'allusion, vous l'avez compris, renvoie au sacrifice d'Isaac. Le syncrétisme régit évidemment tout univers citationniste. Et la Bible vient ici renforcer le réseau d'images. Pour le protagoniste, qui est prénommé Jean, je vous l'ai dit, Jean aussi comme l'auteur de l'Apocalypse, il suffit d'une lueur, même la plus infime, pour que le chemin s'ouvre. Alors, le courant s'inverse. Vous remontez la mort. Donc c'est sur cette dynamique apocalyptique que se clôture la partie initiale du récit, non sans avoir, selon la loi du genre picaresque, trivialisé le propos en remettant le projecteur sur des détails burlesques. Par exemple, l'escapade du dalmatien dont le héros a la garde, qui appartient à son voisin de palier, nommé Toth, qui est évidemment un chasseur brutal, qui possède une carabine de la marque, devinez, Enel. Dans la seconde partie du récit, intitulée « Des histoires », ce chien accompagne le Picaro dans un restaurant mondain à Paris, où en plus de souligner l'invraisemblance et le grotesque de la scène, il sert d'alibi pour engager la conversation avec une jolie jeune femme revêtue d'un manteau en faux pelage de dalmatien. Celle-ci s'avère être la directrice du musée de la chasse à Paris, mais oui, Lena Schneider, qui lui apprend que ce sont des animaux sacrés. Elle dit « Ce sont les chiens que Pan offre à Artémis. Un dalmatien n'appartient jamais vraiment à son maître, mais toujours à la déesse de la chasse. » Diane se trouve alors convoquée pour expliquer l'irrésistible attirance du héros. Son désir est provoqué par la blancheur d'un large visage, détail sur lequel le texte insiste à plusieurs reprises, non sans provoquer des échos avec la pâleur de la déesse lunaire ou peut-être même la baleine blanche, figure de l'absolu chez Melville. Mais Lena Schneider fascine surtout le héros par son discours. En effet, elle lui apprend que si Artémis a plusieurs noms, c'est parce qu'elle sait, dit-elle, que chaque nom est un morceau de cette étincelle qui allume la souveraineté du dieu. Intrigué, il veut connaître ses noms, mais elle lui fait comprendre qu'ils sont secrets réservés aux initiés. Il n'en faut pas plus pour emballer l'imagination du jeune homme qui se sent transporté dans un décor digne d'une fable mythique. Je cite. À travers sa voix, je pressentais un paysage de braises et de bois lunaires. Je la voyais circuler la nuit entre des feuillages jusqu'à des eaux lentes, ombragées de saules et de peupliers. De très vieilles phrases me venaient à son propos, des phrases antiques où se blottissent des théophanies. Elle a les dieux dans le sang, me disais-je. Elle abrite une solitude qui la rend présente au mystère. Il sort du restaurant pour avoir le loisir de l'observer sans être vu à travers la vitre, en situation de voyant, traquant un pan de nudité. Au moment où elle releva ses cheveux qu'elle fixa en chignon, je vis apparaître sa nuque. Et au moment où il est surpris, il endosse ouvertement le rôle d'Actéon. Il dit « Elle s'est tournée vers moi. Nous nous sommes regardés longuement. C'était comme si elle voyait mon érection. » J'allais être changée en cerf, sans doute l'étais-je déjà, et des bois poussaient autour de ma tête comme une forêt de phallus au bord de giclées qui serait bientôt tranchée par ses chiens. Cependant, la jeune femme se contente de sourire, et la seconde partie du récit se clôture sans qu'on en sache plus. Donc cette partie centrale du roman, le mythe de Diane, permet donc de maintenir un fil énigmatique et une potentialité dramatique dans un développement narratif par ailleurs décousu et fantasque en accord avec la généricité picaresque. Jean, en picaro, vit en marge de la société. Il entre, par le fruit du hasard et de la chance, dans un lieu de haute bourgeoisie qu'il tourne en dérision. Par exemple, le majordome de la brasserie Boffinger n'est autre qu'un sosie d'Emmanuel Macron, irrité par les manquements à l'étiquette, incapable de gérer les débordements de comportement tant du héros imbibé d'alcool que de son chien, auquel, à défaut de laisse, il doit prêter une cravate. Dans le contexte, le mythe devient le garant d'un sens second, sérieux, dissimulé sous un récit d'apparence saugrenue. Autre exemple, le producteur, Pointel, habituellement préoccupé par son seul chiffre d'affaires, se met brusquement à l'écoute de l'idéalisme du héros après avoir survécu à un grave accident automobile provoqué par un cerf sous le poids duquel il a pensé mourir. Je cite. « Ce que je disais l'intéressait vraiment. Je crois qu'il lui importait peu de continuer à faire des bonnes opérations au cinéma. Il cherchait à voir autre chose, une chose qu'on voit rarement sur les écrans, une chose qui peut-être n'existe pas et dont certains d'entre nous sont les porteurs involontaires. Comme il me l'expliqua, le cerf l'avait changé. » En d'autres termes, les éléments mythiques qui gravitent autour de Diane et de la chasse se laissent entendre comme un contrepoint de la mélodie globale picaresque et contribuent à donner à l'intrigue un sens second, métaphorique, de type initiatique. Ce programme contrapuntique s'affirme ouvertement dans la troisième partie intitulée « Des noms ». Lorsque le héros narrateur s'adresse directement au lecteur, encore un procédé picaresque, pour l'encourager à interpréter correctement son récit. Pourquoi ai-je entrepris cette chronique, si ce n'est pour vous confier des mystères ? Je suis entraînée depuis plusieurs années à vivre dans plusieurs dimensions à la fois. Et si la vie de l'obsessionnel éméché peut faire de moi un personnage de roman éventuellement comique, s'y superpose une autre vie, tout aussi solitaire, mais plus mystique, où la recherche qui m'anime a décidé de figures moins pittoresques. Une méditation s'enclenche. Le mythe de Diane gagne alors en visibilité comme un intertexte déclaré, mais contredit. En effet, le héros se retrouve au lendemain de sa nuit d'amour en compagnie de sa déesse, toujours vivant, mais amnésique. Ce détail implique que l'évocation du moment d'extase amoureuse est impossible, gardant entier le mystère. Cependant, des bribes de souvenirs reviennent, où le picaro se revoit poursuivre Léna dans le musée de la chasse plongé dans l'obscurité, acceptant sa mise à mort prochaine, je cite, « Allait-elle m'attirer vers la source ultime, vers ce lac ajusté au corps du bois où, dénudant ses seins, découvrant ses cuisses, révélant sa toison, la déesse, avec ses doigts qui ont glissé dans sa vulve, asperge le voyeur dissimulé derrière le tronc d'un chêne et par ce geste le met à mort ? Tant pis si je me faisais zigouiller, je bandais merveilleusement, comme dans un rêve, il fallait que je rattrape Léna. » A-t-il dès lors fait mentir le mythe ? Lorsqu'il retrouve sa belle le lendemain, elle est plongée dans la lecture des métamorphoses d'Ovide, dont elle lui apprend qu'il lui a fait, la nuit précédente, un commentaire de contestation. Selon moi, il était révoltant qu'Actéon fût condamné à mort pour avoir contemplé la nudité d'une déesse. Il ne devrait pas être interdit de regarder une femme nue, quand bien même elle serait Diane, la plus chaste des déesses. J'avais dit cette nuit à Léna, du moins me le rappelait-elle parce que j'avais oublié, que toute ma vie était fondée sur l'idée de voir les déesses nues sans en mourir. Et le héros est persuadé d'y avoir réussi. Cette nuit, j'avais rompu la malédiction d'Actéon, je n'étais pas mort. Léna oppose toutefois à sa version banalement triomphante une interprétation plus subtile, liée à une clause conditionnelle. « C'est parce que tu m'as regardé avec justesse, » dit Léna. Le problème avec Actéon, c'est qu'il regarde Diane comme il regarde toutes les proies, avec l'œil de celui qui veut tuer. Alors elle lui renvoie son regard, elle le tue. Il avait regardé avec ses habitudes de prédateur, il avait regardé comme une chienne. Ainsi avait-elle, en toute logique, lâché les chiens sur lui. Donc entre Diane et Actéon, il y a, dit l'héroïne, un miroir, autrement dit un renvoi d'image. En d'autres termes, si le jeune homme n'a pas été châtié, c'est que bien qu'ayant une attitude désirante, figuration habituelle d'ailleurs du Picaro, toujours dans la faim ou la soif, il n'a pas vraiment joué le rôle d'Actéon, puisqu'il a tendu à Diane un miroir non prédateur, mais adorateur. En ce sens, si le héros de Hanel est bien un Picaro, il l'est au sens de figure de la rupture, selon l'expression de Cécile, Bertha et Elisabeth, ici en rupture avec le modèle picaresque lui-même. En effet, si en toute chose, le protagoniste fétiche de Hanel revendique d'abord le droit à être différent, à rester dans le dissensus, il dira « Jean Deschelles est le porte-parole de mon univers est un refusant ». Donc, ce héros est moins un gredin qu'un innocent à la manière du prince Michkine, par exemple, toujours au service de la vérité, quoi qu'il en coûte, ce en quoi réside précisément cette couronne que l'auteur enjoint à tenir fermement. Significativement, il s'intéresse à Melville, qu'il considère comme un saint, et à Cimino, qui, selon lui, vit selon les dieux, et qui témoigne de, je cite toujours, « quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui, est en un sens, qui, en un sens, lui tient tête, l'innocence ». La béatification du Picaro est exprimée en toutes lettres dans le roman par un illuminé qui se réjouit de le voir vivant après un attentat qui a meurtri Paris et qui lui déclare « Ton âme est sauve. Il y a un sentier qui traverse l'enfer mais qui est indemne. Tu chemines sur ce sentier. Tu vois l'infernal. Tu en es troublé. Mais tu n'y participes pas. Tu es intact. » Jean apprend en effet avec stupéfaction que durant sa nuit d'extase amoureuse, a eu lieu à Paris un attentat sanglant qui a touché plus de 100 personnes. S'ensuit un épisode visionnaire où le sacré ne coïncide plus avec l'éros, mais avec la mort. Le héros voit, dit-il, un lac de sang à la place de Paris, car la mort était entrée dans cette ville qui s'est toujours crue intacte. Et de cette transgression résulte une propagation multilatérale du malheur. Je cite, « Le cercle du sacrifice est illimité, ainsi la mort, lorsqu'elle s'abat sur quelques-uns, nous touche-t-elle tous. » Et de même qu'il avait assumé durant la nuit de ne pas se détourner de la beauté interdite et fatale, il décide au matin d'affronter l'horreur. Je m'abandonnais à cette folie, regardais l'abîme en face. J'ai pensé que peut-être il me fallait devenir fou pour devenir sage. Oui, devenir fou pour devenir sage. Quel programme ! Une parole de saint Paul, je crois. Qu'il évoque à ce moment une parole paulinienne n'est pas anodin, car le viatique des héros de Hanel reste invariablement dans des phrases talismaniques provenant de grands noms de la littérature ou des textes sacrés qui permettent de résister à l'attirance de la mort et de l'exorciser. En définitive, qu'il s'agisse d'être confronté à l'éros ou au crime, le protagoniste ne se dérobe pas, il surmonte l'épreuve en endossant une posture d'accueil à ce qui vient. Il dit « Je ne désirais pas me soustraire ». L'essentiel ne réside pas forcément dans ce qui nous éclaire, mais dans une approche, parfois nécessaire, de l'obscurité. Mais il ne côtoie ce danger que protégé par des phrases incantatoires. Par exemple, une phrase m'est revenue à laquelle j'ai recours quand ça va mal. Et c'est ainsi qu'il subit positivement l'initiation, mise à mort symbolique, suivie de renaissance. Et le livre se clôture par une mise en pleine visibilité du mythe, puisque le héros rejoint les berges du lac de Némi, appelé Miroir de Diane, en raison d'un sanctuaire dédié à la déesse. Il y dépose en offrande, en sacrifice, dit-il, le manuscrit de son scénario sur Melville, pour écrire plutôt un roman sur Chimino, qui vient de décéder, un homme qui, dit-il, menait une existence à double face, l'une profane et l'autre invisible, où le mystère, plutôt que les calculs, dicte la vérité. À Némi, le Picaro se trouve à sa juste place. La légende dit, en effet, que Diane y protégeait les marginaux qui cherchaient à échapper à la loi et qu'elle les accueillait en leur accordant une étrange souveraineté. L'un des hors-la-loi devenait en effet le prêtre de la déesse, son amant mystique, à la condition, 1. D'avoir cueilli le rameau d'or et 2. D'avoir mis à mort le roi des bois précédents. Le héros se délecte de cette histoire qui allie sensualité, violence et sacré, et qui révèle le sacrifice et la mise à mort qui, selon lui, ordonnent en secret l'histoire du monde. Il esquisse un parallèle entre le roi des bois et Actéon, tous deux à l'affût d'une apparition redoutable, le rival, qui va le mettre à mort, ou la beauté dénudée de Diane, avec le même résultat. La fin du roman est celle de l'attente de l'accomplissement. Devenu romancier, le héros se sent pleinement en phase avec le récit légendaire. Il dit « J'avais la sensation de connaître cette histoire intimement, comme si je ne cessais de la vivre, comme si en elle quelque chose me désignait, le nom de Némi m'appelait depuis toujours. » Ainsi, accordé à son destin, on pourrait même dire sa vocation, il entre chaque matin dans le lac, menacé par Toth, qui cherche à le retrouver pour le tuer avec la carabine Enel, mais ne rêvant que de Léna qui devrait venir le rejoindre. Donc en un mot, tout au long du roman, le mythe de Diane donne lieu à une utilisation complexe, démultipliée en divers motifs, le cervidé, le chien, la chasse, le lac, la nudité, le regard, le désir, le sacrifice. Motif qui compose une intrigue kaléidoscopique dans laquelle le picaresque s'adjoint une dimension mythique diffractée, qui lui assure une profondeur métaphysique, généralement absente de la généricité picaresque, plutôt orientée vers la seule satire sociale. Grâce à ces allusions mythiques, le dérisoire devient sérieux. L'invraisemblable porte le signe d'une vérité cachée qui ne fait qu'affleurer par instant. En cohérence avec la conception que se fait ce protagoniste citationniste, qui ici s'en remet à Tiphaine Samoyo, elle-même citant Parménide, donc, une conception de la vérité comme aletheia, voilement, dévoilement. La vérité, c'est une épiphanie, elle n'existe qu'à travers l'éclair qui la rend possible. Diane est donc l'étincelle contrapuntique qui illumine et modifie en profondeur un univers picaresque. Comment un tel projet peut-il se prolonger dans un autre médium lorsque le romancier devient cinéaste? Et en particulier, comment mettre en image celle-là même qui exprime l'interdiction de voir. Yannick Enel s'est intéressé à relever cette gageure, et dans le film, il dit en voix off « Un jour, on m'a prêté une caméra, on m'a proposé de faire un film. Peut-être serait-il possible, avec des images, de faire apparaître la déesse. J'entendais la voix de Diane qui me narguait. Va donc me filmer maintenant, si tu en es capable. » Le projet Filmix semble être une manière donc de reprendre par d'autres voies celui de figurer cette nudité interdite et évanescente dont sa production littéraire est hantée. Il dit, depuis des années en écrivant des livres, donc on entend ça dans le film, depuis des années en écrivant des livres, j'essaye de relever le défi de Diane. J'y vais, je ne fais que ça. Mais qui pourrait saisir l'insaisissable? Rien ne garantit en effet la faisabilité de cette entreprise que du contraire. Que du contraire, même s'il faut en croire le héros du roman Tiens ferme ta couronne, précisément mis en garde par ses amis qui craignent de le voir abandonner la littérature pour le cinéma parce que, disent-ils, le scénario c'est la mort de l'écrivain. Le moment où les écrivains se mettent à rêver de cinéma est précisément celui qui marque leur mort en tant qu'écrivain. Mais à ce pessimisme, le héros de Tiens ferme ta couronne oppose que lorsqu'on agit contre son propre intérêt, lorsqu'on se sabote, c'est toujours par fidélité à une chose plus obscure, dont on sait secrètement qu'elle a raison. Alors, le stratagème auquel Yannick Enel recourt pour être fidèle à sa visée intime en troquant le stylo pour la caméra tient à une astuce qui est l'usage du miroir. Tout amateur de mythes sait qu'il est certaines réalités redoutables qu'il vaut mieux regarder de manière indirecte par reflet. À cet égard, précisons d'emblée que le film se présente comme un court-métrage d'autofiction de 30 minutes qui met en scène l'écrivain lui-même. Le miroir déformant s'impose donc d'emblée comme contrat de lecture. Le film n'a pas l'ampleur méandreuse, évidemment, d'une aventure picaresque de 330 pages. Il n'est d'ailleurs pas la version cinématographique du livre. Mais il en est le prolongement, qui exploite le capital mytho-poétique du lac de Nemi, topos sur lequel s'achevait l'intrigue romanesque. Que montre ce film ? D'entrée de jeu, on découvre l'écrivain qui joue son propre rôle, manipulant des piles d'ouvrages dans son salon bibliothèque, où les livres prennent absolument toute la place, et même sa compagne est figurée en lectrice. Et puis il transporte ses livres jusque dans son lit, où il l'occupe bien plus que la jeune femme qui se déshabille sans susciter aucun intérêt de sa part, lui restant plongé dans ses bouquins. La culture livresque s'interpose donc ouvertement dans la relation amoureuse, et plus spécifiquement, un essai, « Laisser le bain de Diane » de Pierre Klossowski, illustré de photos de statues de la déesse, sur laquelle le héros attire l'attention de sa compagne. Tandis qu'on l'entend dire en voix off « Je voudrais sauver Actéon, je voudrais jouir de la déesse sans en mourir », on le voit faire prendre la pose à la jeune femme de la statuaire, tel un Pygmalion inversé qui préférerait le marbre à la vivante. Ensuite, il la filme dans sa baignoire et elle s'amuse à l'éclabousser gentiment, comme s'il s'agissait de suivre le mythe de Diane en le mettant en scène à la lettre, mais pas en esprit. Klossowski, qui a pleinement souligné la question du désir dans la fable mythique, qui a lié les rangs érotiques au besoin transgressif de saisir le sacré, rien de tel dans les images filmées. Ce qui est montré dans le film ressemble à la fable mythique, mais en symétrie inverse, miroir déformant. Les deux séquences suivantes contiennent la clé interprétative de l'ensemble. En effet, si l'espace filmique se partage en deux temps qui correspondent à deux espaces, l'appartement parisien et le lac italien, un décor intérieur, un décor extérieur, donc encore une inversion, il y est mêmement question de miroir. De manière littérale à Paris, parce que la jeune fille, éternellement muette d'ailleurs, se maquille devant sa glace. Et de manière métaphorique, devant le lac de Nemi, où par contre elle parle abondamment, elle ne dit rien, elle n'arrête pas de parler. Elle parle abondamment et elle dit à son compagnon, « Guarda, è lo specchio di Diana. » Regarde, c'est le miroir de Diane. Elle répète à trois reprises, « Guarda, regarde, regarde, regarde. » Ce qui ne peut manquer de surprendre dans la bouche d'une pseudo-Diane. On comprend donc que cet univers filmique est structuré selon une logique spéculaire. Tout s'y reconnaît, mais tout s'y trouve soumis à l'inversion. Ce qu'exprime d'ailleurs une autre phrase prononcée par l'héroïne exactement à la moitié du film et qui peut se comprendre comme une mise en abîme de l'ensemble. « Vedi, a un velo, e non c'è. » Tu vois, il y a un voile, et il n'y en a pas. Ainsi, lorsque le couple se retrouve ensuite au bord du lac, on ne s'étonne plus que ce soit la femme qui invite l'homme à se baigner, que ce soit l'homme qui fasse le signe du secret, lui encore qui asperge de gouttelettes le corps féminin dans un geste de douce sensualité et non de violence castratrice. Et on rencontre ensuite deux nymphettes qui, au lieu de protéger farouchement la vertu, sont des aguicheuses. Elles disent « On a chassé qui aujourd'hui ?» qui prennent d'ailleurs grand plaisir à se faire filmer, et au lieu de se proposer au regard d'Actéon pour protéger leur déesse, elles cherchent plutôt à détourner l'attention du héros à leur propre bénéfice pour le séduire. Puis, lorsque Diane les rappelle à l'ordre, elle la serve, elle la pare de bijoux, et puis elle réveille le jeune homme en pleine nuit pour qu'il contemple sa déesse en apparat. Donc en finale, les quatre personnages vont se baigner, nus, tous ensemble, dans le lac, et le film se termine sur une joyeuse série d'aspersions en tous sens. En un mot, tous les éléments du mythe sont cités, mais systématiquement utilisés en contre-type. Ce film se veut pleinement citationniste, mais en opposition constante avec ses sources. Donc il rend visible à la fois l'intérêt de l'auteur pour la fable mythique et le dissensus qu'il défend à l'égard de la morale castratrice qui lui est attachée. Donc, question que j'ai posée d'emblée, l'imagination est-elle libre ? Assurément, l'univers imaginaire de Yannick Enel se construit par rebond à l'intérieur d'un paysage culturel multiple, littéraire, artistique, philosophique, cinématographique, incluant les strates de réinterprétation des mythes, par exemple Klossowski relisant Ovide. Et les faux bonds sont possibles, il n'est pas interdit de contredire. Car la matière mythique, merveilleusement, n'appartient à personne. Pas plus que Diane, elle ne se laisse posséder. Elle augmente son aura d'être appelée, tout en restant intouchable, puisque aucune reprise, aucune déformation, aucune parodie, aucune trivialisation du mythe n'empêche la fable mythique de rester en son essence d'ordre immémorial, en son déploiement d'ordre culturel. Tout mythographe appartient à la scène mythique qu'il enrichit de son apport, fût-il axiologiquement déviant, comme l'ont analysé Jean-Jacques Vuillenburger, Pierre Brunel, Claude Canal ou T. Heidemann, pour ne citer que ceux-là. Contester l'existence du mythe comme l'a tenté Jean Bollack est aporétique, je pense, dès lors qu'il faut encore s'en remettre au mot mythe pour désigner l'objet du déni. Ainsi, pour figurer l'attrait de l'impossible, la fulgurance de l'épiphanie, la fascination du sacré, Yannick Hanel se trouve-t-il naturellement convié à reconfigurer le récit de Diane, patrimoine mythique immémorial et mémoire culturelle, constamment réactivée dans la littérature et le cinéma, entre autres. Le défi que cela pose au créateur, qu'il soit romancier ou cinéaste, est de trouver la forme appropriée à cet objet, soit une manière de figurer, d'une part, comment le désir n'est pas assouvi, mais attisé par le voile, d'autre part, comment le divin foudroie et requiert l'usage du voile à qui veut s'entretenir avec lui. Donc, de l'écrit à l'écran, il s'agit de produire une œuvre qui oppose viol et voile, c'est-à-dire qui interroge l'interdiction de voir le sacré, le pouvoir du voilement et le caractère mortifère du dévoilement qui en sont indissociables. L'imagination est-elle contrainte par le médium de l'expression ? On constate en tout cas qu'il amène Yannick Hanel à exploiter dans le roman et le court-métrage des modalités narratologiques inverses. Dans le roman du romanesque au cinématographique, les possibilités de jeu, alors jeu dans le sens de l'activité ludique comme de l'espace qui permet le mouvement, les possibilités de jeu sont différentes. Ainsi, le cadre organisationnel du roman est-il générique ? Le picaresque suppose un espace, suppose un type d'intrigue, suppose un système de personnages particulier, suppose une tonalité socialement contestataire et pittoresque. À ces éléments, les composantes mythiques qui apparaissent peu à peu en contrepoint et en diffraction confèrent une valeur d'énigme qui modifie l'épaisseur sémantique du récit. « Tiens ferme ta couronne », dit l'écrivain dans un entretien, est avant tout un livre apocalyptique. Et cette révélation est progressive, elle met en lien une intrigue apparemment anodine avec un hypotexte immémorial et une mémoire culturelle, et c'est le ressort premier de cette tension narrative. Dans le film, c'est le code scopique qui ordonne la narrativisation, et donc le jeu de sémantisation tient, au contraire, à ce que le mythe, posé d'emblée en référence explicitement visible, dès le titre, invite-le au fil des séquences à une reconnaissance, mais toujours biaisée, à une constante esquive des attentes du spectateur. Merci pour votre attention.